L'Assemblée régionale des radios associatives, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et le lycée Ernest Féroul de Lézignan-Corbière vous présentent
Teen Star FM.
La radio qui parle aux jeunes.
Bonjour et bienvenue sur Teen Star FM, la radio des lycéens d'Ernest Féroul. Vous connaissez l'équipe: Florent, Blanche, Théo, Héloïse et Raphaël. Bonjour l'équipe, c'est Maëlys à la technique et je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième émission. Au sommaire d'aujourd'hui, Florent vous proposera de vous perdre en forêt. Blanche vous embarquera dans une magnifique histoire. Théo vous contera la légende de Dame Carcasse. Héloïse, pour sa première, vous présentera une série. Quant à Raphaël, il change de sujet. Mais vous aurez la surprise pour la fin.
À l'approche des beaux jours, le département de l'Aude a édité 5 brochures illustrées pour découvrir les espaces naturels sensibles dont elle est propriétaire. Au nombre de 17, ces sites vulnérables sont remarquables d'un point de vue écologique, pour sa faune, sa flore, ses milieux, géologique et ou paysager. Rappelons que le territoire possède un patrimoine naturel d'une grande richesse, comptabilisant plus de 500 espèces végétales et 333 espèces animales. Le département est également considéré comme celui qui accueille le plus grand nombre d'oiseaux nicheurs en France. Ainsi, le CD11 vous propose de recevoir gratuitement ces brochures en remplissant le formulaire sur le site dédié espacenaturelsensible.aude.fr. Une idée d'évasion particulièrement appréciée en ces temps moroses liés à la crise sanitaire. Voici donc un classement à titre subjectif établi entre 3 ENS présentés dans les brochures. Numéro 3, la forêt des Plous. Le seul espace naturel sensible que je vous présente hors de la montagne Noire. En effet, il se situe aux portes des Corbières occidentales, à proximité de la commune de Greffeuil. À travers une boucle de 3 km, vous pourrez partir à la découverte d'un bois entretenu par l'Office national des forêts et abritant une variété d'espèces résineuses et feuillues, chênes verts, érables, frênes, pins. Des panneaux explicatifs vous guideront tout au long de votre randonnée pour admirer notamment un mur rucher associé à l'apiculture ou encore des capitelles, ces cabanes typiques de la région construites en pierre sèche. Le son de la bergeronnette des ruisseaux, présente sur les berges de la rivière du Loquet et également de la rainette méridionale peuplant les différentes mares artificielles de la forêt, se fera certainement entendre dans un cadre si bucolique. Numéro 2, la forêt de la Rouge. Couvrant les hauteurs du village de Sessac, ce bois s'étend de part et d'autre du vallon de la Vernassonne, sur un total de 93 hectares. Trois objectifs sont conciliés à la gestion du site: la protection de l'environnement, l'accueil du public et la production de bois. Et oui, l'activité forestière y est présente. Elle participe ainsi à la garantie d'une filière économique active dans la région. Sont entretenues une dizaine d'espèces de conifères dont le cyprès chauve, qui a l'étonnante particularité de respirer en partie grâce à ses racines aériennes et également des feuillus introduits dans les années 50 dans le cadre de campagnes de reboisement suite à la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion d'un parcours de 3 km, vous plongerez sans aucun doute dans l'habitat naturel de la grive musicienne, du pic et pêche ou encore de la martre. Le côté historique du lieu se traduisant par le passage à proximité de la rigole de la Montagne Noire qui alimente toujours aujourd'hui le canal du Midi, vous sera détaillé par le biais de divers écriteaux. Numéro 1, les Sagnes de la Prade. C'est au cœur de la Montagne Noire, sur la commune de Cuxac-Bardès, que le lac de la Prade Basse, formé par la rivière de la Dure, abrite une biodiversité exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'une zone humide, Sagne en occitan, et plus précisément d'une tourbillette. Ce milieu marécageux se caractérise par un réservoir d'eau important, et ce grâce à l'absorption remarquable de la sphène, une mousse qui peut emmagasiner jusqu'à 30 fois son poids. La tourbillère joue également un rôle contre le réchauffement climatique, puisqu'elle peut stocker l'équivalent de 50% du carbone contenu dans l'atmosphère. Étant fragile, il est donc primordial de la préserver à bon terme. D'autres acteurs, tant de la faune que de la flore, viennent compléter ce paysage. La linaigrette, l'anax empereur, le damier de la succise. Tout ceci est admiré depuis un circuit de près d'un kilomètre, totalement aménagé autour du lac, comprenant ainsi une balade sur un platelage en bois et un chemin forestier, et commenté tout au long par des panneaux.
Le tueur du Zodiac, célèbre criminel qui a terrorisé la Californie durant les années 60, laisse un souvenir marquant de honte aux plus éminents spécialistes criminologues qui ont échoué à l'identifier, malgré toute la bonne volonté dont sont capables ces braves gens. Cette charmante région des États-Unis, qui évoque d'ordinaire le beau temps et la liberté, a été le théâtre d'événements aussi troublants que cauchemardesques, autant pour les riverains que les responsables de l'ordre. Le 20 décembre 1968, David Faraday et Betty Lou Jensen, âgés de 17 et 16 ans, sont sauvagement tués d'une balle dans leur voiture en soirée, alors qu'ils s'étaient arrêtés dans un endroit habituellement peu fréquenté. Ce n'est alors que le début d'un véritable massacre, étalé sur plusieurs années consécutives. Ciblant principalement les couples isolés dans leurs véhicules, le Zodiac continuera d'épouvanter la population locale pendant un temps considérable. Au total, 5 meurtres avérés et des centaines d'autres présumés. 2 tentatives d'agression et un enlèvement, dont l'intensité et la violence ont traumatisé bon nombre de familles américaines. Évidemment, l'assassin n'a jamais été identifié, et l'enquête stagne depuis des dizaines d'années dans ce qui semble être un bourbier d'indécision et d'ignorance, le tout saupoudré d'une fierté toute propre aux représentants de la loi, qui refusent autant que possible de tenir la presse au courant de leur progression. Mais ce qui a définitivement contribué à asseoir la réputation sanguinaire du Zodiac, ce sont très certainement les lettres codées que ce dernier a allègrement envoyées à la presse et à la police pendant plusieurs années, et dont la signification est demeurée une énigme. Depuis, une quantité impressionnante de candidats ont défilé devant les portes du FBI, déclarant avoir découvert le moyen tant désiré permettant de traduire les mystérieuses missives, tels de présomptueux écuyers aspirant à arracher la belliqueuse Excalibur de son rocher, rendue avide de succès par la promesse d'une reconnaissance internationale. Cependant, cette foule, composée principalement de charlatans surexcités, n'a rencontré jusque-là que des échecs qui ont fait pousser plus d'un soupir de désespoir aux autorités concernées, sûrement épuisées par les appels quotidiens et répétés de cette bande de pseudo-profilers. En effet, seulement 2 des nombreux billets reçus ont pu être décodés, n'apportant que peu d'informations utiles aux inspecteurs chargés de l'enquête. Bref, jusqu'ici, chers auditeurs, rien d'extraordinaire. Il s'agit visiblement d'un cas d'incompétence judiciaire, comme tant d'autres qui hantent les archives des commissariats. C'est du moins ce qui ressortait de façon flagrante. Mais ces chers agents ne comptaient apparemment pas sur l'ingéniosité de Faïkal Zirawi, un jeune étudiant franco-algérien qui a eu le privilège d'être accepté à l'école polytechnique, lieu hautement sélectif s'il en est. Au prix de nuits acharnées de travail et de cogitation, dont sa vie sociale a certainement dû pâtir, Zirawi a réussi l'exploit tant convoité. Comprendre la langue du Zodiac, s'infiltrer dans l'esprit machiavélique du tueur névrosé. Une expérience à la fois déplaisante et excitante, comme il le dit lui-même dans ses interviews. Le jeune homme a envoyé son travail au FBI, dont nous attendons encore des informations sur l'évolution de cette enquête tumultueuse.
Je vais vous raconter la légende de Dame Carcasse. Elle a donné son nom à la ville de Carcassonne. La légende dit qu'entre le 8e et le 9e siècle, c'est le roi Charlemagne qui est au pouvoir en France. Dans sa quête de territoire pour son empire, il va assiéger la ville de Carcassonne pendant presque 5 années. La cité était aux mains d'un roi musulman nommé le roi Balak, et de sa femme, Dame Carcasse. Après la mort de son mari, qui a tenté d'arrêter le roi Charlemagne, Dame Carcasse a dû reprendre en main les défenses de la cité. Elle plaça d'abord des mannequins de paille sur les remparts pour donner l'illusion d'une défense armée. Alors que la nourriture commence à manquer, elle décide à la surprise générale d'engraisser le dernier cochon de la cité, avant de le jeter du haut des remparts sur les troupes ennemies. Cet acte a décidé Charlemagne à lever le siège car il pensait que la cité avait encore de quoi tenir très longtemps. Pour fêter sa victoire, Dame Carcasse fit sonner les cors. En somme, Dame Carcasse sonne. Ce qui vaudra le nom de Carcassonne. Aucun texte historique ne permet de savoir si Dame Carcasse a vraiment existé, mais sa légende est intemporelle, symbole d'intelligence et de résistance au féminin. Dame Carcasse continue de traverser les siècles, à l'image de sa forteresse, elle en garde même une entrée car une statue à son effigie se trouve devant la porte narbonnaise de la cité.
Bonjour à tous les gourmands consommateurs de Netflix, dans cette chronique série irrésistible, on parle de délicieuses séries. Aujourd'hui, sur notre plateau, c'est la série Mindhunter que je vous propose de découvrir. La série Mindhunter, du virtuose cinéaste David Fincher, est une production ciné Netflix sur 2 volets. Inspirée du roman au même nom de John Douglas, ce chef-d'œuvre télévisuel retrace les débuts de la criminologie et du profilage qui prennent naissance dans le sombre sous-sol de Quantico. Initiée par l'agent Ford, cette science est aujourd'hui largement utilisée afin d'appréhender les criminels. Ford, accompagné de Bill Tench, un autre agent du FBI, parcourt les États-Unis des années 70 à la rencontre des plus grands criminels au destin scellé derrière les barreaux. Ils délivrent leurs terribles et sanglants témoignages aux deux policiers, leur permettant de poser les fondements de cette science révolutionnaire. En parallèle de cette odyssée, ils doivent résoudre de fraîches affaires et les interrogatoires deviennent des clés pour y parvenir. Cette série nous plonge dans les tréfonds de la folie et des vices humains, ainsi que dans leurs ressorts, puisque Ford comprend que la meilleure manière de lutter contre la criminalité est de s'introduire dans la tête de ces grands criminels. Cette série, à l'atmosphère suffocante, passionne. Les plans, la BO, la colorimétrie participent à créer une ambiance particulièrement envoûtante, renforcée par un suspense et de sombres intrigues permanentes, prenantes et palpitantes. À cela s'ajoute un remarquable casting. Chacun des acteurs endosse à merveille son rôle et fait preuve d'un jeu époustouflant. Son rythme latent peut paraître déroutant, mais c'est précisément celui-ci qui permet de renforcer le saisissant réalisme qui émane des épisodes. À tort, la résolution des affaires est trop souvent simplifiée par les films et les séries policières, alors que Mindhunter excelle dans la mise en évidence de la complexité de résolution des affaires, mais celle aussi des procédures, toujours lentes et laborieuses. Empreinte de réalisme, cette série questionne et interroge. Comment ces hommes peuvent-ils commettre de tels actes? Violer, torturer, tuer avec tant de perversité leurs semblables. C'est à ce moment précis que la citation de Hobbes prend tout son sens. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, pour tous ceux passionnés de psychologie, aux amateurs de polar, consommez cette série à l'élégante conception, sans modération. Ce thriller psychologique, hypnotisant, est fait pour vous. Je suis convaincue qu'il laissera chez vous, comme il l'a fait pour moi, une trace indélébile, tant la virtuosité de cette série dantesque est une évidence.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous essayons un tout nouveau thème bien particulier. Je sais, le temps est long et déprimant, le travail couvre 85% de notre temps, excusez-moi, j'avais oublié que je ne dormais plus. Et pire encore, la vaisselle ne se fait toujours pas toute seule. Mais heureusement, aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer et mettre en lumière des génies prêts à tout pour un trophée, et ils ont bien raison. Laissez-moi donc déclarer le début des Darwin Awards. Mais avant, petite explication. Ce fabuleux prix fut créé en 1993 grâce à Internet, mais plus précisément à Wendy Norscott. Ces récompenses sont données à des personnes étant tout simplement mortes d'une manière complètement stupide. Ici, aucune récompense monétaire, seulement les pires réputations de la Terre. Enfin bref, en ce jour d'ouverture, je voudrais cerner trois prix. Leur point commun ? Ils viennent de notre cher pays préféré, les États-Unis. En même temps, ce pays est une vraie mine d'or. Mais n'attendons pas plus longtemps. Certaines personnes aiment les sensations fortes, mais notre héros de Caroline du Nord en voulait plus. Effectivement, en 1987, pendant un saut en parachute pour filmer les parachutistes, il se rendit vite compte qu'il faisait en réalité un simple saut tout court, sans parachute. Une dure leçon qui le ramena vite sur Terre. Le second prix revient à un habitant de Floride. La haine après une rupture est très fréquente et ça se comprend. On ressent une boule qui s'enflamme de rage et qui nous brûle. C'est d'ailleurs à prendre au premier degré, car un Américain nous l'a montré en essayant de brûler le magasin de son ex-petite amie. Une tentative ratée qui aura au moins éteint la rage en lui. J'aimerais terminer sur un hommage à un Américain du Texas qui fut écrasé par un camion après avoir couru à proximité d'une autoroute en tentant de rattraper sa canette de bière. Malheureusement, les deux n'ont pas tenu le coup, mais le pire, c'est que le dernier goût qu'il a eu ne fut pas sa bière, mais bien un morceau de caoutchouc.
Merci l'équipe, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette troisième et dernière émission de la saison. On vous embrasse et on vous dit à l'année prochaine.